Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rock and Page sur Radio Clapas 93.5 FM à Montpellier, sur Radio Grille Ouverte 88.2 FM à Alès, sur le 93.9 FM de Divergence FM à Montpellier aussi, et enfin sur Valais FM 98.4 à Marne-la-Vallée. Marie-Pierre Soriano commande de votre magazine littéraire qui aime la musique. Rock and Page, c'est le rendez-vous que je vous fixe tous les 15 jours sur vos radios engagées. Je partage avec vous mes coups de cœur littéraires en tout genre, romans, nouvelles ou BD, pas de frontières, pas de course au profit non plus, donc pas forcément de course à l'actualité. Le but du jeu, si tout n'est qu'un jeu en somme, c'est de partir très loin en vous remettant entièrement entre les pages d'un auteur ou d'une auteure. Prêtons-nous les bouquins, allons les emprunter dans les médiathèques, qu'importe, achetons-les dans les librairies dignes de ce nom, certes, l'essentiel étant le voyage offert à nos cellules, nos épidermes et nos âmes par celles et celles qui ont le talent des mots, et pour ne léser personne, ou en tout cas pour essayer de ne léser personne, je chronique les bouquins, j'interviewe les auteurs autant que faire se peut, et la spécificité de Rock and Page réside là, je pose comme fil rouge de l'émission une playlist, mais pas n'importe quelle playlist, non, la playlist qui selon moi vous restituera tout aussi puissamment les univers des bouquins, les rythmes des phrases, l'architecture des romans, le tempo des personnages, bref. Et aujourd'hui, je suis très très heureuse de vous annoncer que ce sera Des vies d'oiseaux, le dernier roman de Véronique Ovaldé, qui sera à l'honneur de ce Rock and Page. Et je suis encore plus fière de vous annoncer que d'ici une poignée de secondes, Véronique Ovaldé en personne répondra pour nous à toutes mes questions au sujet de son 7e roman. Et avant toute chose, écoutez plutôt ce que j'ai choisi de soumettre à vos oreilles pour vous faire entrer de plein pied dans l'univers de Des vies d'oiseaux de Véronique Ovaldé, paru en cette rentrée littéraire de septembre aux éditions de l'Olivier.
Thank you. silver slippers and a long white gown. Blow up all a picture in my mind the day the walls come down.
C'était Brian Eno et David Byrne pour vous prendre par la main sans perdre une minute et vous dire, messieurs dames, procurez-vous Des vies d'oiseaux de Véronique Ovalde, paru aux éditions de l'Olivier. Allez, pour la petite histoire, tout comme dans son précédent roman, qui s'intitulait, lui, Ce que je sais de Vera Candida, Ovalde nous emmène en Amérique du Sud, on pourrait dire cette fois le Mexique. On y croise d'entrée et tout à la fois le commissaire Taibo, taciturne et dans un sale moment de sa vie personnelle, mais un homme beau s'il en est. Et puis Vida, femme d'âge mûr, faisant partie de la haute bourgeoisie, mais étant née par contre tout en bas de l'échelle sociale. Donc Taibo, il est là, un peu bancal, car fraîchement séparé, et Vida, elle est à un carrément drôle moment de sa vie, puisque Paloma, sa fille unique, toute jeune adulte, est en rupture totale avec elle et puis son père, à Paloma, donc le mari de Vida. Et finalement, Taibo et Vida vont partir à la recherche de cette Paloma fuyante. Des vies d'oiseaux ne se résument absolument pas à sa petite histoire, vous vous en doutez. Je dirais même que Ce que je sais de Vera Candida était un roman, pour moi, sur l'observation des trajectoires de vie, quand on peut les lire avec un tout petit peu de recul. Alors que Des vies d'oiseaux, lui, est un roman sur l'instant où tout bascule et d'où naît le désordre. Vida était sur le grand boulevard de sa vie bourgeoise, mais elle était aussi en train de passer à côté de quelque chose de crucial et d'essentiel de sa propre vie. Et Taibo, quant à lui, sans que cela soit aussi peut-être flagrant que dans la vie de Vida, se trouvait à l'instant où tout peut recommencer, où tout commence dans un carrefour de sa propre vie. Et alors, quant à Paloma, écoutons plutôt dans quel genre de moment elle se trouvait, elle. We'll be right back. Voilà, DJ Johansson pour vous dans Rock'n'Page aujourd'hui, un Rock'n'Page consacré à David Oiseau de Véronique Ovalde, paru en cette rentrée littéraire de septembre aux éditions de l'Olivier. DJ Johansson pour vous dire une bonne fois pour toutes que l'écriture de Véronique Ovalde se situe à la frontière invisible entre le réel et puis une autre vérité. Et si ce que je sais de Vera Candida pouvait presque avoisiner le conte, ce n'est plus du tout le cas dans David Oiseau, où s'il fallait absolument des étiquettes pour rassurer tout le monde, alors on s'approcherait plus du roman noir, de l'intrigue psychologique sur fond crucial de réalité sociale aride, désertique, misérable. En fait, Ovalde, c'est l'écriture de la frontière entre le réel et ce qui ne l'est pas. C'est l'écriture pour raconter des histoires d'humains confrontés au réel quand il est un tout petit peu distordu comme ça, à des instants T en observation. On peut se faire transporter en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, dans des pays qui n'existent pas, à la pêche aux poissons volants qui n'existent pas non plus, en comprenant absolument ce que les personnages traversent. Mes trêves de discours, ce ne fut pas facile de parvenir à caler un rendez-vous avec elle, mais avec pas mal de détermination et beaucoup de bonne volonté, on y arrive. Véronique Ovalde, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour.
Alors, David Oiseau est votre septième roman. Comment il est né, ce roman-là ?
Alors, comment il est né ? Comment on a fait un roman ? C'est compliqué, ça, la cuisine des auteurs. Celui-là, il est né avec une première scène, une scène de chasse. Et cette scène de chasse s'est retrouvée au cœur même du roman. La scène de chasse, c'est une scène entre un père et un fils. C'est une scène violente parce que le fils, qui a 14 ans, part à la chasse avec son père. Et en fait, ce n'est pas du tout une scène de complicité entre un père et un fils. C'est une scène très dure parce que le fils se rend compte que son père, en fait, joue la vie du gamin dans cette partie de chasse. Et cette scène-là, en fait, elle a surgi pour moi, elle est venue, et puis tout a découlé de cette scène première.
Mais il a fallu la remettre au centre de tout ?
Oui, j'ai voulu la remettre au centre parce qu'en fait, elle est arrivée, elle a surgi comme parfois surgissent certaines choses quand on écrit des livres, mais simplement, je ne pouvais pas la laisser au début du roman parce que ça aurait créé comme une sorte de prologue. Et faire un prologue avec une scène aussi dure, aussi violente, et qui dit des choses terribles quand même sur les relations entre un père et un fils, ça donnait un éclairage très particulier au texte. Donc j'ai préféré la mettre à l'intérieur même du roman, la réinsérer pour qu'elle soit au cœur même du texte, donc à l'intérieur.
Alors, pour moi, ce que je sais de Vera Candida, votre précédent roman, s'approchait du conte. Et là, vous nous mettez face à une écriture et un univers beaucoup plus aride, comme une sécheresse, un petit peu comme un désert, en somme. Traversé, il est doublé, ce désert, par une vraie intrigue qui en fait quasiment un roman noir, en fait, avec une vraie photographie aussi d'une misère, alors que...
Bah, dans Vera Candida, il y avait la misère aussi et les difficultés politiques, enfin la difficulté que c'est de vivre dans un pays où il y a une milice assez, disons, violente. Donc c'est quelque chose. Et puis il y avait beaucoup de choses sur les violences qui étaient faites aux femmes et la façon dont elles étaient acceptées et acceptables hein, dans cette Amérique latine que j'avais inventée. Mais il y avait quelque chose de plus, disons, de plus flamboyant, on va dire, dans Vera Candida, peut-être d'un peu plus tape à l'œil aussi. C'était quelque chose de... C'est comme une sorte de... Parce que l'image, moi, qui me vient pour Vera Candida, c'est une espèce de bijou pacotille, mais très, très brillant, un peu comme un strass, vous voyez, quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Je me suis amusée avec ça. Je me suis amusée pour raconter une espèce de mythologie d'une famille de femmes sur plusieurs générations. Il y avait quelque chose... il y avait ce type d'ampleur dans Et puis, c'était passé dans un endroit tropical. Mmh. Alors que finalement, dans David Oiseau, c'est une autre Amérique latine, donc en effet plus aride, plus sèche. Il y a des parties qui se passent en plein désert. Voilà, l'écriture, pour moi, elle n'a pas tellement changé. C'est encore une écriture qui est très... qui est une écriture de la digression, une écriture des relations entre les êtres. C'est quelque chose de, disons, je m'approche plus près des êtres, je pense, dans David Oiseau. Je les accompagne de façon plus intime.
Alors justement, ce que je sais de Vera Candida, c'était plus une observation de la trajectoire quand on peut en avoir un recul, alors que là, on est vraiment dans l'observation de l'instant, en fait, comme l'étincelle, en fait, presque. Et en même temps, moi, dans l'écriture, j'ai noté que vous venez de parler de digression, et justement, en fait, je trouve qu'à l'intérieur même de la phrase et dans sa structure, en fait, on retrouve moins cette espèce d'esprit très joueur, très moins de renvois, moins de parenthèses, moins de digressions, mais que ça, qui est très propre à vous, en fait, on le retrouve plus dans l'architecture plus générale du roman, en fait, avec des vies d'oiseaux.
Ah oui, oui, dans des vies d'oiseaux, il y a toutes les vies de ces personnages qui s'emboîtent, justement. Et mais finalement, mes phrases elles-mêmes s'emboîtent souvent, parce que c'est amusant que vous disiez ça sur les parenthèses, parce qu'en fait, il y en a beaucoup, beaucoup quand même dans des vies d'oiseaux. Il y a beaucoup ce système, en effet, digressif. Simplement, disons, le ton global du roman est plus mélancolique. Donc, dans l'autre, il y avait plus, sans doute, de truculence et de cette violence était plus... était mise en scène dans quelque chose d'un peu plus burlesque, on va dire. Dans Des vies d'oiseaux, c'est un roman sur les chagrins de ces êtres-là et la possibilité que je leur donne de se libérer de leur douleur.
Alors, j'ai une question. Quand je l'ai rédigée, je me suis dit, bon, là, il y a un vrai problème. Je ne peux pas, décemment, pas poser cette question à Véronique Ovalde. En même temps, je ne peux pas faire autrement que vous la poser. Alors, Des vies d'oiseaux, c'est porté par Vida, Taibo, évidemment, et enfin Paloma. Et dans ce que porte de tragique cette Paloma, je vais pas tout dévoiler ici, que ce soit dans son lien avec son père, avec sa mère, ou avec justement ce fait que je ne veux pas dévoiler aux auditeurs, c'est la première fois qu'en vous lisant, je me pose la question de l'autobiographie, comme sur cette période-là de la vie de Paloma, vous n'étiez pas parvenu à tisser ce lien aussi là, qui est la signature de Véronique Ovalde, cette espèce de frontière intangible entre le réel et ce qui ne l'est pas, en fait. Il y a une espèce de colère à l'intérieur de Paloma que pour la première fois j'ai pris presque nu, sans éclairage, sans filtre, en fait.
Ah bah écoutez, elle n'est ni plus ni moins. Moi, on va dire, elle est l'un de mes personnages. Donc évidemment, les personnages sont des êtres qui sont fabriqués avec beaucoup de choses, avec notre chair, notre sang évidemment, mais aussi avec notre mémoire, avec notre colère, avec nos aspirations, avec plein de choses. Et Paloma, moi, ça m'intéressait dans ce roman-là, tout particulièrement, de parler de l'adolescence, oui, et de des amitiés adolescentes, des amitiés fusionnelles qu'on peut vivre à ce moment-là, et puis des grands chagrins de l'adolescence. Donc tout ça, ça y était. Donc évidemment, je puise dans mes propres souvenirs pour activer en quelque sorte mon personnage. Mais on fait tout ça pour activer des personnages. Et puis pas seulement dans ma propre mémoire, mais aussi dans ce qu'on m'a raconté, dans ce qu'on m'a dit, dans ce que j'ai lu, dans ce que j'ai entendu, dans tout ce qui m'a été rapporté. Donc c'est toujours le même système, hein. C'est que je mets ça dans ma marmite et puis je fais mijoter et ça donne quelque chose de spécial. Et alors ce qui est bien, c'est que si vous avez vu la colère de Paloma, c'est parfait parce qu'elle est un personnage en colère.
Ah oui, complètement.
Elle est énervée, cette fille-là.
C'est ça.
C'est une fille irritée.
C'est ça.
Elle ne veut plus de la vie qu'on lui donne et elle va... et puis elle est un peu brutale, évidemment, dans sa façon de refuser ce qu'on lui donne.
Ouais.
Et elle pourrait être une petite fille riche, comblée, mais elle ne veut pas.
Ouais.
Et j'aime assez, moi, les personnages qui résistent.
Hein. Et comme si elle était encore la partie vierge, en fait, parce que sa mère, en somme, elle est aussi dans ce moment-là de sa vie, c'est-à-dire que voilà, elle est à un carrefour et puis elle peut ne plus vouloir de sa vie de bonne femme riche, plus côté vieille rombière que jeune femme désespérément en colère. Mais finalement, enfin, ouais, voilà, c'est des boîtes et ça s'emboîte.
Surtout, elles viennent pas du même endroit.
Complètement.
Évidemment, elle vient quand même de cet endroit cossu, elle a été protégée, elle a été aimée, et c'est plus compliqué quand on a fait le chemin de Vida, qui vient d'un endroit assez misérable, qui n'a pas été malheureuse particulièrement dans son enfance, mais qui vient d'un endroit misérable et qui devient une grande bourgeoise. Et ce trajet-là, de toute façon, ces trajets-là sont toujours des trajets violents. Changer de milieu social, c'est toujours une violence. Et donc, elle est totalement illégitime à l'endroit où elle est, Vida. Et donc, le fait de se sentir illégitime fait qu'elle ne se donne absolument jamais le droit de faire ce qu'elle a envie de faire. Alors que Paloma est ultra légitime à l'endroit où elle se trouve.
C'est ça.
Ça, ça crée une grosse différence. Et toutes les deux, elles aspirent à quelque chose. Elles aspirent à s'émanciper, elles aspirent à s'affranchir, elles aspirent à se libérer. Et elles sont dans une forme de résistance, toutes les deux, mais elles n'ont pas la même réponse à leur réalité.
Alors Paloma, et puis c'est cette espèce d'amoureux là, qui peut être qu'un amoureux de l'adolescence, hein. Dans leur fuite, ils s'invitent dans des appartements vides, enfin où les propriétaires sont partis, dans lesquels ils ne volent rien, mais qu'ils utilisent parfois même jusqu'à revêtir la vie des autres, ces propriétaires absents. Alors quel sens vous voulez lui faire hurler là, cet acte de jeunesse, quoi, beau, violent, désespéré, mais qui est quand même particulier, quoi.
Oh, ben, je vais pas lui donner du sens, en tout cas c'est certainement pas à moi de lui donner du sens, en plus de ce que j'ai écrit dans le texte, bien entendu. je ne vais pas faire le commentaire de ce qu'ils font là. Ce qui se passe simplement, c'est qu'en effet, ce sont deux jeunes gens et qui passent leur vie à endosser la vie des autres en s'installant chez ces personnes quand elles sont parties en vacances, quand elles ont déserté leur maison. Moi, je sais pas, c'est une espèce de fantasme, sans doute, de liberté absolue. Et vous n'avez rien, rien ne vous appartient et vous n'appartenez à rien. Et puis, vous allez d'un endroit à l'autre comme le vent vous pousse, et c'est plutôt jubilatoire pour des très jeunes gens comme eux.
Oui, c'est ça. Véronique Ouvalde, merci infiniment pour votre roman.
Merci beaucoup.
Et merci aussi pour votre disponibilité, celle que vous venez de nous offrir. Vous ne couperez pas à la question Rock'n'Page. Quel titre de musique ou quel musicien choisiriez-vous pour évoquer en musique des vies d'oiseaux ?
Écoutez, il y a eu une bande originale, en fait, de ce, parce que je fais des lectures, en fait, de ce roman, des lectures musicales. Donc, je vais vous lire Philippe Pijard. Philippe Pijard, c'est lui qui a fait la musique. Donc, pour moi, c'est vraiment lui qui ferait la musique des vies d'oiseaux. Et Philippe Pijard, c'est le leader du groupe Tanger. Donc, voilà.
Très bien.
Tanger pour ce livre.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci bien. Au revoir.
Au revoir. Voilà, c'était Véronique Ouvalde au micro de Rock'n'Page. Je vous rappelle qu'on vient de causer tout près dans les oreilles de Des vies d'oiseaux de Véronique Ouvalde, paru aux éditions de l'Olivier. Pour finir de vous convaincre, je dirais que ce roman magnifique, moi, il m'a parlé de l'instant du désordre. Alors qu'on se croit en train de rouler pépère sur l'autoroute de sa vie, bang, l'instant du désordre survient sous la forme que vous saurez voir, et tout est là, je crois. Et de cet instant peut naître l'infiniment beau, l'éblouissement, le blast, comme dirait Larsenet, l'incontournable, l'inénarrable, le crucial, l'essentiel. Oui, mais voilà. Tout se joue en un instant et la règle reste la même pour tous. On ne peut rien fuir. À méditer dans vos casques, dans vos chaumières, dans vos pantoufles et dans les mènes. Croyez-moi, le tout écrit dans une langue jubilatoire dont seule Véronique Ouvalde a le secret. Une langue qui se joue de nous, qui se joue de tout, y compris du vrai et du faux, sans même qu'on sourcille. Un livre à lire d'abord et puis à offrir ensuite à quelqu'un à qui l'on voudrait du bien et que du bien. Rock'n'Page, justement, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Tom de Radio Clapas, à la technique. Restez bien dans l'écoute de vos radios préférées à Montpellier, Alès ou Marne-la-Vallée, qu'importe. À tout bientôt pour un nouveau numéro de Rock'n'Page. Et moi, je vous laisse en compagnie de Dean Martin, le crooner, qui au-delà de tout ce que je pourrais vous dire, va vous raconter cette vida là, ce personnage seul et absente d'elle-même dans sa maison en or massif qui s'ennuie à crever et c'est dans ses pantoufles en soie plantées là, tellement loin de qui elle est vraiment au tout début du roman, avant que tout ne déboule de façon fracassante. Je vous rappelle qu'on ne fait pas une omelette sans casser des œufs, ce fameux instant du désordre. Allez, à tout bientôt.
Start to play, dance with me, make me sway. Like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. You know how. Sway me smooth, sway me now.